Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
OK, il y a de plus en plus de questions qui se posent au Texas, aux États-Unis, sur la réponse des policiers, des premiers policiers qui sont arrivés à l'école Robb Elementary à Uvalde. Et il y a des images assez troublantes qui circulent. Ça se passait pendant la fusillade des parents qui ont accouru à l'école et qui sont tombés sur des policiers qui, eux, attendaient les renforts du SWAT, policiers armés, qui voulaient pas entrer dans l'école. Ça pose plein de questions sur la formation, sur les choix tactiques, mais aussi sur la fibre d'être humain quand on se retrouve dans une situation semblable, même si on porte un uniforme, même si on a une arme avec soi. Denis Côté, policier retraité du SPVM. Denis Côté s'est rendu célèbre en 2006. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a atteint le tireur du collège Dawson dans ce triste événement. On s'en souvient, là, le tireur fou qui avait fait irruption à l'école, au collège Dawson, au centre-ville de Montréal, et c'est Denis Côté qui l'avait atteint, et ensuite le tireur s'était donné la mort. Salut Denis!
Hey, salut, célèbre, tu y vas pas avec le dos de la cuillère.
Ben, écoute, c'est une biographie, des reportages, puis il y a même eu une série documentaire sur toi, fait que t'es célèbre au moins dans les rangs de la police, Denis, mais regarde, je veux qu'on parle, après cet événement-là, tu m'avais dit, écoute, il y a plein de policiers qui y vont, qui arrivent sur les lieux. Puis tu m'avais expliqué comment tu avais fait ton chemin jusqu'à la mezzanine, puis tu avais pu tirer l'assaillant. Puis tu m'avais expliqué aussi qu'il y a des policiers qui arrivent là et qui gèlent, qui veulent pas rentrer.
Oui, mais de fait, ça m'est arrivé aussi. Moi, c'est à Dawson, c'est ça qui est... La première petite claque que j'avais eue, le premier petit revers, c'est je rencontre un gars que je connais, un policier que je connais, puis pour faire une histoire courte, lui, je lui garde, on s'en va, puis... Il a gelé. Fait qu'il m'a comme fait signe, non, j'y vais pas. Fait que ça revient à dire que, en dessous de l'uniforme, l'affaire qui évolue plus, c'est l'individu, l'être qui est là. Est-ce que, tu sais, comme on dit, l'habit fait pas le moine. Tu peux avoir un uniforme sur le dos, mais tu peux ne pas te sentir préparé à un événement comme ça. Tu peux ne pas t'avoir préparé mentalement à un événement comme ça. Tu n'as pas fait de visualisation. Je sais pas, tu sais. Fait que, ça demeure tout une question de toi comme individu, comment tu te prépares puis comment tu vas réagir face à une situation. Il faut que tu l'aies anticipé un peu aussi, là. Mais tu sais, il y a plusieurs choses qui... T'as ta préparation, t'as ta visualisation, t'as ta formation, t'as ta mentalité aussi. T'es-tu dans la police par vocation ou t'es là pour les avantages sociaux? Tu sais, on se cachera pas que c'est un humain. Fait que les humains, on est tous différents, puis en dessous de l'uniforme, ben... T'sais, ça peut faire une différence au moment où tu vis une situation comme ça, là.
Mais les images qui nous parviennent de Uvalde là, sont assez troublantes, Denis, quand même. Là. Il y a plusieurs policiers en armes qui sont là, qui se font engueuler par des parents qui sont désespérés. Comment ça se fait, tu penses qu'il n'y a aucun de ces flics-là qui a dit « OK, on va y aller, on va pas attendre le SWAT ».
Mais moi ça me fait, tu sais, les États-Unis, on sera toujours, on va toujours être surpris de leur mentalité là, mais ça me dit un peu comme si il avait pas évolué. On dirait que de la façon que tu me décris l'événement, mais là, tu sais, c'est sous toute réserve parce que ça va être enquêté là, évidemment là, mais tu sais, on dirait que tu me parles de policiers qui ont la mentalité qu'on avait à l'heure de la, tu sais, lors de la polytechnique. On dirait que tu es en train de me raconter un scénario qui décrit, mettons, des façons de faire qui n'ont pas évolué, c'est qui était, mettons, synonyme de celles qu'on avait dans le temps de la polytechnique. Ça a quand même pas de sens. Les États-Unis, s'il y en a qui devraient être préparés à ça, c'est bien eux autres. C'est pas un quotidien de fusillade pour eux autres, mais mettons que c'est pas loin de ça non plus, là.
Parce que, Denis, faut le dire, à polytechnique, les premiers patrouilleurs qui sont arrivés, ce qu'ils avaient comme instruction, c'est « Ah, tu restes dehors puis t'attends que le SWAT arrive. »
Oui, et là, c'était une formation.
Puis ce qu'on a constaté dans le post-mortem, là, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est les premiers qui arrivent sur une scène semblable, ils rentrent, ils inondent la zone, puis ils vont essayer de talonner le gars qui tire parce que tu veux qu'il devienne traqué.
Oui, puis ça, les formations, ils vont en ce sens-là. Les techniques ont été développées pour ça. Ce qui me surprend, c'est que d'après que les techniques aient été envisagées puis données aux patrouilleurs, il y a plusieurs pays dans le monde qui venaient chercher nos techniques. Fait que tu te dis, ben, à un moment donné, c'est un signe d'évolution. Puis ceux qui auraient dû s'en enrichir, c'est bien les Américains, ils sont tout le temps là-dedans. Fait que je suis un peu surpris, tu sais, même, je suis quasiment sceptique face à ce que tu me dis, ce que tu me décris, là. Je suis un peu sceptique. Mais si c'est vraiment le cas, ça redevient, tu sais, ça revient à ce qu'on disait. C'est une question d'individus. Ça veut dire que les policiers qui étaient là, ils étaient pas prêts mentalement ou ils étaient pas formés pour y aller, là. Tu sais, je comprends pas, là.
Denis, tu sais, ce qu'on voit, c'est tous les policiers restent là. Ils rentrent pas. Fait que là, après ça, on peut se dire, tu sais, c'est pas juste des gens qui ont gelé. Est-ce que tu penses que ça pointe vers une directive du département de police dans ce coin-là?
Ah, ça, j'aurais bien peur. Non, je ne penserais pas.
Non?
Moi, je penserais plus un manque de formation, peut-être. Tu sais, parce que la formation continue, c'est beau, là, mais c'est pas dans le réel, c'est pas tout à fait ça, là, tu sais. Fait que moi, je pense que non, c'est un manque de préparation, de formation ou de la part des individus qui étaient là, tu sais, peut-être qu'ils avaient jamais anticipé ça, mais pourtant, ils devraient, les Américains, c'est quand même chose courante, tu sais. Fait que non, moi, je penserais pas que ça soit une directive, mais vraiment pas. C'est sûr. Puis en plus, ces policiers-là, ce qui me fascine un peu, c'est que nous autres, tu sais, on a appris, mais avec nos limites aussi, pareil, hein, parce que je te ferais remarquer qu'on n'a toujours pas d'armes longues, là. Les patrouilleurs n'ont pas accès aux armes longues, là. Puis c'était dans les recommandations du
coroner.
Du coroner. Mais on les a toujours pas. Mais eux, ils ont des armes d'assaut la plupart du temps dans leur véhicule. Donc, ils sont mieux ferrés pour répondre à ces situations-là. Ça me laisse, tu sais, ça me laisse un peu perplexe. Je comprends pas qu'ils n'aient pas agi. Mais si c'est ça, là, je veux pas les juger. Tu sais, on va peut-être avoir d'autres paramètres plus tard. Oh. Mais si c'est vraiment le cas, tel que tu me le décris, Simonac, je me dis, ils n'ont pas évolué.
Denis, la vie, c'est pas un film, puis on voit qu'il y a des politiciens aux États-Unis là qui reviennent avec cette idée-là que si chaque prof était armé, ce genre d'affaire-là arriverait pas. Explique aux gens qui nous expliquent d'abord c'est quoi tirer du gun dans une situation stressante, et ensuite, c'est quoi tirer du gun avec quelqu'un qui est mieux armé que toi?
Mais tirer du gun, tu sais, quand tu me parles des États-Unis, on dirait que c'est comme si c'était aller souper, tu sais. Mais oui, peut-être qu'ils sont habitués, tu sais, puis tirer du gun sur une cible, c'est quelque chose, tu sais, une activité du dimanche matin. Ça, pour eux autres, c'est peut-être ça. Mais dans un contexte réel où tu fais face à une menace, là, l'être humain, tu sais, s'il est pas préparé, il va être envahi par la peur, par le stress, puis à ce moment-là, toutes ses facultés cognitives, ils vont changer, tu sais, avec l'utilisation de l'arme à feu. Fait que c'est faut que tu sois préparé non seulement à avoir une arme à feu, à l'utiliser, mais à te mettre dans un contexte de stress qui va, tu sais, là où tu vas devoir employer ton arme à feu. Même nous autres, quand on va tirer, ou bien même devant les simulateurs, c'est une chose de te mettre dans un simulateur puis de tirer, c'est bon. C'est sûr que ça te prépare. Mais si tu y vas avec nonchalance en disant, bah, ça peut rien m'arriver, puis tu te mets pas dans une situation où tu es appelé à contrôler ton propre stress, ben quand tu vas le vivre, ton stress, tu sais pas comment tu vas réagir. Donc, tu peux figer, tu peux fuir, ou tu vas peut-être bien réagir, puis tu vas sortir ta préparation, puis tu vas foncer. T'sais? Mais il faut être capable. Moi, je pense que ce que je dis souvent à des amis policiers, il faut d'abord et avant tout que tu sois capable, quand il arrive un événement stressant comme ça, de tout de suite faire la dissociation entre tes capacités puis tout ce qui est émotionnel. Faut pas que tu laisses l'émotion rentrer. Parce que si tu laisses l'émotion rentrer, ben là, à ce moment-là, tu vas dire, je vais-tu rentrer à la maison, mes enfants, ma femme, puis le kit. Puis ça vient tout biaiser ta capacité de réagir face à l'événement, ta capacité de l'analyser, puis ta capacité de ressortir ta formation pour l'affronter. Tu sais, c'est un peu technique, puis c'est un peu du blabla ce que je te dis, là. Mais c'est quand même ça, comme individu, qu'il faut que tu apprennes à gérer, puis à filtrer, tu sais. Fait que là, visiblement, de la façon que tu me décris ça, tu fais face à des policiers qui se sont dit, ils se sont peut-être jamais visualisés dans une situation de même, qui ont dit, oh, non, t'as peu, le SWAT, eux autres sont formés pour ça, on les laisse venir. Mais tous ces événements-là, il faut qu'ils soient contrôlés en dedans de 20 minutes. C'est toutes les études le démontrent. C'est les 20 premières minutes qui sont les plus difficiles à gérer, mais qui sont les plus nocives dans l'événement. Fait que faut que tu fonces. T'as pas le choix. Faut que tu rentres. Puis notre formation, aujourd'hui, au Québec, en tout cas, est faite en ce sens-là. Mais je comprends pas que les Américains l'aient pas adopté. Là. Ça me fascine un peu. Là.
Merci, Denis.
Ben, ça fait plaisir, Pat.
À la prochaine.
J'espère que j'ai pu rentrer, répondre à ta question. Là,
ben, mais... écoute, il y a pas beaucoup de gens qui peuvent expliquer c'est quoi entrer dans un lieu où il y a un tireur actif. T'es une de ces personnes-là. Moi, je trouve toujours ça utile de te donner la parole là-dessus.
Ben, ça me fait plaisir, Pat.
Salut, mon gars. C'était Denis Côté, ancien policier du SPVM. C'est lui qui avait atteint le tireur au collège Dawson. Je trouvais ça important de parler avec Denis parce que là, il y a beaucoup de critiques contre les policiers aux États-Unis. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas rentrés, les policiers de Uvalde. Est-ce que c'était une directive? Est-ce qu'ils ont eu des ordres sur le fly comme ça par un commandant? Est-ce qu'ils ont tous gelé? On le sait pas. L'enquête va le démontrer. Mais l'autre point que je trouve important dans cette entrevue-là, c'était de démontrer par l'absurde comment c'est stupide de penser qu'on va donner des guns à tous les profs, à toutes les enseignantes, pour qu'elles puissent tirer sur quelqu'un si quelqu'un rentre. Vous avez des policiers qui sont là, qui sont formés, puis qui y vont pas. Il y a peut-être une raison. Puis, dernière affaire, pas tiré du gun souvent dans ma vie, l'ai fait une fois. J'étais en voyage il y a très longtemps aux États-Unis, quelques années, et avec ma blonde de l'époque, on était allé dans un shooting range, on était allé tirer. Même quand c'est toi qui tires, c'est terrifiant. Le bruit, c'est terrifiant. Savoir ce que t'as dans la main, c'est terrifiant. Fait que si t'es un prof, t'es en train d'enseigner comment accorder des verbes, puis soudainement, t'entends des tirs d'armes automatiques ou semi-automatiques comme ça, là, ça se peut que tu gèles. Je suis pas sûr que même si t'as un bazooka, tu vas savoir comment t'en servir. C'est très épeurant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Donc, au lendemain de la tragédie qui a fait 21 morts au Texas, dont 19 enfants dans une école élémentaire, l'émotion est encore palpable devant l'école primaire Rob de la petite ville d'Uvalde. Et notre ami Philippe Bonneville est à Uvalde. Salut Philippe!
Salut Patrick!
Donc, la police qui fait le point sur la situation cet après-midi, mais il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse.
Mmh. Ouais, on a quand même une meilleure idée de la chronologie des événements. Les autorités qui disent que, bon, c'est précisément à 11h28 mardi que le tireur s'est retrouvé juste à côté de l'école. Et les policiers affirment que cet homme-là, il s'est immédiatement mis à tirer des coups de feu sur des gens, même à l'extérieur, même pas du personnel de l'école, là, mais des gens qui étaient dans le secteur. Et 10 minutes plus tard, il est entré dans l'école, toujours en tirant de nombreux coups de feu. Les premiers policiers sont arrivés à l'école 4 minutes plus tard, selon les autorités, donc qui ont fait le point tantôt. Ils se font alors tirer dessus tellement que, semble-t-il, qu'ils n'ont pas pu s'approcher du suspect. On demandait alors des renforts qui sont arrivés un peu plus tard. Et c'est une heure plus tard, c'est quand même un bon long délai, là, qu'un groupe d'intervention tactique a réussi à abattre le tireur. On le sait maintenant, il était retranché, barricadé dans une classe où il a fait de très nombreuses victimes. Ce sont donc les plus récents détails qui sont disponibles. Mais les gens ici, Patrick, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça a été aussi long pour atteindre le suspect. Un suspect seul, il est barricadé, on sait il est où. Les gens veulent aussi savoir pourquoi la porte par laquelle le tireur est entré n'était pas barrée. Ça, c'est confirmé par les policiers. La porte, elle n'était pas barrée. Alors qu'ici aux États-Unis, on le sait, la sécurité dans les écoles fait en sorte que toutes les entrées sont sécurisées et sont barrées habituellement. La police dit qu'il y a encore beaucoup de témoins à interroger, beaucoup de bandes vidéo aussi à analyser, mais on sent ici qu'il y a beaucoup de gens qui croient que plusieurs vies auraient pu être sauvées si les policiers avaient pu agir plus rapidement. Mais là, c'est certain qu'on est encore au beau milieu de l'enquête. Le FBI est impliqué là-dedans. On va sûrement en savoir plus au cours des prochains jours, des prochaines semaines.
Oui, la réaction des policiers, ça va être au cœur de la chronique de Valérie Beaudoin dans quelques instants. Pendant ce temps-là, Philippe, là, il y a une grand-mère dont la petite fille fait partie des victimes qui a lancé un cri du cœur aux autorités.
Oui, cette grand-mère, elle était en larmes quand je l'ai rencontrée plus tôt aujourd'hui ici. Évidemment, c'est un choc terrible, on peut comprendre, pour elle, de savoir que sa petite fille de 10 ans a été lâchement assassinée. Je vais faire entendre aux auditeurs un extrait de l'entrevue. C'est en anglais, bien sûr, alors je vais traduire un peu à l'avance pour que les gens comprennent bien. Cette femme-là, elle sait qu'elle ne reverra plus jamais sa petite fille vivante, mais elle souhaite que la mort de tous ses enfants, incluant sa petite fille, serve au moins à quelque chose. Elle veut que le gouvernement, ici, soit plus sévère au sujet des armes. Elle supplie littéralement, tu vas l'entendre, les politiciens, de faire quelque chose le plus vite possible. Je te laisse entendre.
They need to not forget when this is over, like weeks. They need to do something now. My granddaughter wasn't here. She was an innocent little girl. I will never have my baby again. And they need to do something about it. They need to not forget us. Don't forget them, please. Do something about it, I beg you.
Donc, on l'entend, hein? Beaucoup d'émotions. Elle supplie, oui, les gouvernements, mais on peut se permettre de douter de la réaction des autorités face au contrôle des armes à feu. Les possibilités qu'un véritable changement au sujet des armes sont très, très minces. Écoute, là, il y a 10 ans, rappelle-toi, Sandy Hook, c'était un journaliste à cette époque-là. J'étais allé, moi, sur place. Et à ce moment-là, il y avait eu une telle réaction partout sur la planète, partout en Amérique du Nord, partout aux États-Unis, qu'on se disait, s'il y a un moment où il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un meilleur contrôle des armes aux États-Unis, c'était peut-être à ce moment-là. Il ne s'est rien passé en 10 ans. Donc, les possibilités qu'il y ait un véritable changement, disons, sont très limitées, probablement.
Merci, Philippe. On va te retrouver à cette antenne dans les prochaines heures. Merci.
OK.
Chronique américaine. Salut Valérie.
Salut Patrick.
OK, donc il y a l'horreur, il y a toutes les questions de contrôle des armes à feu, mais il y a aussi la question de la réaction des policiers. Parce que là, il y a des parents qui demandent qu'une enquête soit faite sur la réaction des policiers qui sont arrivés et qui sont pas entrés dans l'école, qui ont attendu. Qu'est-ce qu'ils attendaient?
Ouais, parce qu'il y avait énormément de policiers qui semblaient les bras croisés, du moins dans l'optique des parents, dans ce qu'ils voyaient autour de l'école. Et il l'a dit, Philippe, il y a une heure qui s'est écoulée entre le moment où le tireur est entré et le moment où il a été neutralisé. Et ces parents-là voulaient aller aider, voulaient aller justement dans les autres classes, peut-être aider à évacuer les enfants plus rapidement, s'approcher. Il y en a qui disaient, je m'en fous carrément si je me fais tirer, je veux aller sauver mon enfant qui est à l'intérieur, je ne sais pas s'il est en danger. Et il y a une vidéo filmée par un papa, un père d'un enfant qui est à l'intérieur, qui a circulé dans les médias. Je te laisse entendre un extrait.
You know that they're kids, right? They're little kids. They don't know how to defend themselves. 6-year-old kids in there. They don't know how to defend themselves from a shooter.
We're parents. Take them the fuck out. Fucking take them out or something.
Ça, c'est des parents qui enjoignent les policiers d'entrer dans l'école et les policiers veulent pas y aller.
Et ça dure plusieurs minutes, ces échanges-là. À la fin, elle dit, faites juste le tirer, faites juste l'éliminer, faites quelque chose. Et justement, le père, il dit à la fin, dans tout ça, il dit, écoutez, imaginez les enfants, comment ils ont peur. Si vous, les policiers, vous y allez pas, qu'est-ce que les enfants peuvent faire pour se défendre? C'est ça la question de dire. Et ils étaient sans défense. Alors, on comprend l'émotion des parents. Si je me mets à leur place une seule seconde, j'aurais beaucoup de questions, moi aussi, à savoir comment tout ça a été possible. Alors, bien sûr, on demande une enquête pour comprendre pourquoi c'était si long, pourquoi est-ce que vraiment l'équipe tactique a tardé aussi. Parce que oui, il y a des gens très courageux qui se sont rendus sur place, qui ont échangé des coups de feu avec le tireur, mais pourquoi c'était pas plus rapide de le neutraliser? C'est la question des parents actuellement.
Et il y a le New York Times qui a demandé aux sénateurs républicains s'ils étaient ouverts à passer une législation pour mieux encadrer les armes. Ben la réponse n'est pas très surprenante.
La réponse est non. Hein? Si je veux résumer, en ce moment. Et le New York Times a fait ça de façon très interactive parce que, justement, au fur et à mesure que la journée avance, je viens de regarder, on a changé le décompte. Il y a 4 sénateurs qui semblent ouverts à une législation. Ça ne veut pas dire que ça sera la législation qui plaît aux démocrates, mais quand même, on a quand même une ouverture au niveau des antécédents. Il y en a 14 qui disent non ou qui sont opposés à l'idée et le reste qui ont détourné la question. Ils ont simplement refusé de se prononcer là-dessus. Alors, on leur donne aussi les fameuses notes. Les notes que la NRA, ça, les gens ont peut-être déjà entendu ça. Et Patrick, je t'ai même apporté, parce que je suis certaine que ça t'intéresse, la petite liste si tu veux savoir quelle note tu auras avec la NRA. Alors, que je te remets à l'instant. Parce qu'on a des notes, comme à l'école, des A+, des B, des C. Et ça, c'est vraiment en fonction d'à quel point tu es pro-arme ou non. Alors, tous les élus sont notés. Et la NRA dit qu'elle ne le fait plus, mais je suis allée tout à l'heure, juste avant l'émission, regarder pour l'élection actuelle de mi-mandat. Et sur le site de financement politique, donc les super PAC et tout ça de la NRA, qui est le lobby des armes à feu, on a encore des notes à côté des candidats pour les primaires républicaines, pour les primaires démocrates. Et on incite les gens à se fier sur ces notes-là pour qui ils vont voter. Alors, A+, bon, c'est que t'es pro-arme à 100%, un Ted Cruz de ce monde qui, lui, a reçu des centaines de milliers, millions de dollars de la NRA même. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de lien nécessairement entre les politiciens ou pas, il y a vraiment ce système-là que le New York Times, j'ai trouvé ça assez intéressant, qu'on a réutilisé pour démontrer à quel point on avait peut-être un parti pris pour les armes d'avance.
Il faut le dire, tu sais, il y a une question culturelle aussi dans la possession, la circulation des armes aux États-Unis.
Tout à fait.
Et là, il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent au mois de novembre et les armes sont au centre des publicités des candidats.
Écoute, plus de 100 publicités et ça, c'est juste pour la période qui s'en vient. Là, on est encore dans les primaires, on n'est même pas dans l'élection en tant que telle. Et il y en a plus de 100. Et encore une fois, c'était aussi, je crois, dans le New York Times. Et là, je t'ai pas sorti d'extrait, mais vraiment les slogans. Alors, les slogans de ces publicités-là qui se veulent très accrocheuses, le but, c'est de dire aux gens, on va vous défendre votre deuxième amendement. Alors, il y a « Baby, borders and bullets », »,« Les bébés, les frontières et les balles ». Cette même personne qui est un candidat au Sénat de l'Arkansas dit « Je suis pro-gun, pro-wall, pro-life ». Alors, je suis pour les armes, le mur et la vie. Une autre, qui est l'actuelle gouverneure de l'Alabama, sort son sac à main. Elle dit « Moi, je suis vraiment pour qu'on sache pas qu'est-ce qu'il y a dans le sac à main des femmes, parce que moi, j'ai un rouge à lèvres, elle le sort, un iPhone et aussi mon arme à feu qu'elle montre. Un autre, je crois en trois choses, Jésus, les armes et les bébés, si on se trouve en Géorgie. Un autre, je peux continuer longtemps, en Ohio, pro-God, pro-gun, pro-God, pro-gun, pro-Trump. Et ça, c'est je te dis pas toutes les vidéos où on voit quelqu'un charger son arme pour dire qu'on va défendre les États-Unis, tirer sur des cibles, démontrer la collection d'armes à feu.
Ouais. Détruire une méchante Prius électrique.
Ah oui, ça, c'est Marjorie Taylor Greene. Oui, écoute, je sais pas c'était quelle arme, mais c'était assez fort pour détruire une voiture. Alors, la liste est très, très longue, mais je peux dire que les démocrates vont faire le contraire et qu'ils vont utiliser ça pour les publicités aussi.
Merci beaucoup, Valérie. Merci. L'actualité américaine qui est très intense dans la foulée de ce massacre.
Le Québec maintenant!
Tête de main, ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie, c'est la marde!
Excellent choix musical, Maxime P. Paquet. Ben, je dois des explications aux auditeurs parce que j'ai raté la première heure. Merci, Philippe Quentin, de t'être présenté au Monticule. Pour
ça m'a fait plaisir.
Maman, j'ai raté l'émission, c'est
Maman,
ça?
Maman, j'ai raté la première heure de l'émission. Donc, voici ce qui s'est passé. OK, il n'y a pas mort d'homme, puis je suis pas à plaindre. Sur une échelle de 1 à l'Ukraine, on s'entend, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il y a des problèmes à Passeport Canada. Hein. Ils font face à un achalandage monstre. Et on a mis Hugo Meunier en onde cette semaine. Là, qui est allé sonder les gens au complexe Guy Favreau, qui arrivent là quasiment avec leur kit de camping pour avoir leur passeport à l'heure. Donc, bref, j'avais un petit aperçu de ça, moi, il y a quelques semaines. Et là, j'ai eu une nouvelle voiture. Okay? Mon bail venait à échéance. Fait que je suis allé chercher l'auto. Posez pas trop de questions. C'est à Sainte-Agathe. Okay? Bon. Fait que je vais chez le concessionnaire Volvo à Sainte-Agathe chercher mon auto. Mais avant, on m'avait dit, le bureau de passeport à Sainte-Agathe, il est pas très achalandé. Fait que si tu as des questions à poser, vas-y. Fait que, juste avant d'aller prendre possession du nouveau véhicule, je vais à Saint-Agathe et je pose toutes les questions que je veux. Il n'y a personne. Ils ont le temps, puis ils sont très gentils, puis parfaits. Parce que c'est quand tu fais une nouvelle demande de passeport pour mon fils, c'est je te le dis, là, je suis habitué à lire des documents puis tout, là, c'est pas évident, les termes puis tout. Puis si tu pars dans 6 mois puis tu l'envoies par la poste, ton dossier, puis qu'il y a un problème, c'est pas grave. Le petit doit être dans... Le petit, il est rendu plus grand que moi. Il faut qu'il prenne l'avion au mois de juillet. Mais là, j'ai pas de marge de manœuvre. T'sais. Je peux pas avoir un X que j'ai pas coché. Je peux pas avoir un document que j'ai mal signé. Fait que je veux qu'on me l'explique. Parfait. Fait que je dis au gars, je vais revenir. Et là, ça, c'était ce matin. Fait que à matin, à 6h, je remplissais les dossiers de Passeport Canada pour mon fils. Et à 7h15, je suis sur la route, sur l'autoroute pour m'en aller à Sainte-Agathe. M'en va à Sainte-Agathe.
Popom, popom,
ça va bien. Les pays d'en haut, c'est beau. La petite brume sur les montagnes, c'est magnifique, etc. Moi, j'arrive là.
Puis t'es en avance d'aplomb, là.
J'étais en avance, là. Sortir de Montréal, toujours la même histoire. Ouais. Sortir de Montréal, c'est aussi long que d'arriver à Sainte-Agathe après, là. Mais bref, j'arrive là. Je salue monsieur, je sais pas son nom de famille, Félix, qui m'a aidé, qui a été très compréhensif, très aidant là-dessus. Parfait. Ça s'en va. On a une date pour l'arrivée du passeport à peu près. Ben content. Je m'en vais. Ramasse un McDo. Hein, pas eu le temps de manger. Et là, tôt volant du nouveau char. Et écoute, sur ce, quand tu sors de Sainte-Agathe sur la 15, j'ai rarement vu ça. Il y a des fissures puis il y a des nids de poules qui sont assez impressionnants. J'en ai évité quelques-uns. À un moment donné, il y a un bruit là. Paclar! Et je me dis tout de suite, OK, si j'ai pas une crevaison, je suis vraiment chanceux. Si j'ai pas cassé ma direction, je suis vraiment chanceux. Tout est beau, ça roule, puis à un moment donné, là, le volant commence à... Fait que là, je me dis, c'est-tu la direction? Écoute, deux pneus de crevés. Deux pneus de crevés.
Où? En avant?
Tous les deux pneus du côté gauche. Avant, arrière. Fait que là, je réussis à me traîner jusqu'à la sortie de Saint-Sauveur.
Avec un char neuf.
Appelle le concessionnaire et dis, hey, écoute, c'est quoi le numéro du service?
On s'est vu tout à l'heure.
Non, ça, c'était il y a 2 jours. Je dis, je peux-tu avoir le numéro? J'étais content d'avoir pris la garantie hasard de route. Fait que là, je dis, bon, le numéro de téléphone de l'assistance routière, s'il vous plaît. Pouvez-vous préparer parce que la remorqueuse va amener... Moi, je pense à l'émission, tu sais. Et là, il est 10h30. Je suis correct. Il me dit, hey, j'ai en masse le temps. Écoute, la remorqueuse, puis je critique personne, là, je sais que tout le monde est dans le jus. La remorqueuse, quand j'ai reçu l'avis, une demi-heure après, ça me disait, dans 2 heures, la remorqueuse va être là. Là, j'ai appelé les boss, j'ai dit, écoutez, je veux animer, mais j'étais un peu dans le pétrin. Ils ont eu une bonne idée. Ils ont envoyé, je remercie Sylvain Brunet, ils ont envoyé un technicien de la station pour soit venir me chercher ou s'occuper de l'auto. Fait que quand Sylvain est arrivé à Saint-Sauveur, la remorqueuse n'était pas encore arrivée. Fait que moi, j'ai pris le camion de Cogeco, le petit camion mauve, puis je suis revenu, puis Sylvain s'occupe du char. Je sais pas s'il revient avec mon auto ou avec une auto de courtoisie, mais c'est ça qui est arrivé.
Et tu es allé connecter une coupe de lignes sur le chemin, faire la job de Sylvain?
Écoute, j'ai bien des talents, mais j'ai pas ce talent-là. Puis ce que je voulais souligner, moi, c'est la première fois que ça m'arrive de crever un pneu à cause d'un nid de poule, OK? Et la question que je me pose, il y a pas de mort d'homme, tu comprends-tu? Je me suis pas mis en danger, j'ai été capable de rouler jusqu'à la sortie, j'ai pas eu à me ranger là, sur l'accotement de l'autoroute, ce qui est plus dangereux. Je pense aux motocyclistes. Honnêtement, là, un motocycliste qui pogne le nid d'autruche que j'ai pogné,
tu peux te tuer.
Je pense que tu peux te tuer. T'sais? Puis je sais pas si c'est de l'usure normale, je sais pas si c'est de la négligence. C'était un sacré trou. Et bref, je suis content de pas avoir été en moto à ce moment-là.
J'ai quelques questions.
Vas-y.
Je vais faire mon intervieweur de moi-même. Qu'est-ce que t'as fait durant 2h30 assis dans ton char? Ah, attends.
OK.
Il a écrit 3 chroniques pour la presse.
Qu'est-ce que t'as fait?
Non, mais OK.
Non, mais c'est un joke. Faut toujours t'occuper de ton temps.
Moi, j'essaie de me détacher des médias sociaux, OK?
Ouais, mais là...
Donc, ouais, mais écoute bien. Depuis 6 mois, j'ai pas Twitter dans mon téléphone.
Ouais.
Parce que quand t'es dans le bain puis que tu commences à t'obstiner quelqu'un sur Twitter ou juste à lire de l'information, mais t'es pas en train de relaxer. Puis moi, je me suis dit, si c'est pas dans mon téléphone, ça va être bon. Et depuis 6 mois, c'est comme ça.
Ouais.
J'ai téléchargé Twitter.
Oh, putain!
Ben là, écoute.
Une rechute.
Non, mais c'est pas juste une rechute, c'est qu'il fallait que je prépare l'émission, tout, mais je vais supprimer l'application. Fait que c'est à peu près ça que j'ai fait. J'ai fait une sieste.
Dans l'auto.
J'ai géré ma vessie. Puis j'avais bien hâte que.
Sur la voie publique
J'ai géré ma vessie, c'est-à-dire que je me suis retenu. Okay. Et puis, non, je peux pas faire ça. Fait que bref, je me suis pogné le bacon. J'ai même fait une sieste.
Bon.
Voilà. C'est ça que j'ai fait.
C'est presque bon pour toi, ça. Quand ben, la vie t'impose un repos.
Le stress d'arriver en retard, par exemple, ouais. Je te dis, c'était comme dans un rêve. Quand dans les jamais. Rêves récurrents que je fais jamais. Où t'es en retard puis t'es attendu puis ben, voilà.
Ben, encore chanceux qu'il pleuvait pas si haut ou que c'est oui, pas oui, arrivé, oui. Disons, en plein milieu de la nuit.
J'ai une deuxième question. Ouais. C'est la première fois que t'écoutais ta propre émission en ondes. T'as trouvé ça comment? Parce que tu devais nous écouter à la radio. Tu devais écouter Philippe.
Ben, écoute, ce que je me disais, c'est, à toute chose, un malheur est bon ou quelque chose comme ça. Au moins, c'est Philippe qui est là. On n'a pas été pogné avec toi pour animer. là, je veux dire, c'est
écoutable.
On est au top d'un sondage, mais je pense que ça, les gens t'aiment beaucoup comme fou du roi, là. Ouais, mais oui. Te mettre à l'animation, faire des entrevues MC, là.
Écoute.
C'était prendre un risque, tu comprends? J'étais content que Philippe soit pas loin.
Juste qu'il y a 20 secondes, j'étais triste pour toi, ton histoire de pneus. Et là, je remercie les nids de poules qui te remettent un peu à ta place.
Et moi, je vais quitter le studio subrepticement sans dire un mot.
Non, mais blague à part, on est content que tu sois en forme, si t'es pas blessé.
Oui, oh, non, si, si.
Puis, écoute, merci Sylvain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Merci Sylvain. Oui,
on
merci
s'est aperçu
Sylvain
dans la station
chercher.
Qu'on n'avait pas le même statut que Patrick. Moi, j'en ai fait des flats dans ma vie, puis il y a un mois, j'ai fait une panne d'essence. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Es-tu malade?
Appelle-moi le prochain coup.
Ah,
appelle-moi.
Ben oui. Ben oui. Avec ton genre
électrique. Il va aller chercher avec sa nouvelle voiture.
Ben oui.
Fait que bref, merci à l'équipe de remorquage que j'ai pas rencontré, qui est allée remorquer mon bazou. Merci à l'équipe de Volvo Saint-Agathe là, qui fait le nécessaire, mais voilà. Puis, autre anecdote. C'est une auto électrique.
Ouais.
Puis j'ai mal géré l'énergie parce que...
Déjà?
Ben, écoute, je l'ai pas branché hier.
Ouais, fait que là, t'avais plus de jus.
Ben, j'avais assez de jus pour y aller. Je sais pas si j'aurais eu assez de jus pour revenir. Fait que tu vois, il y a bien des stresseurs aujourd'hui. Bien des stresseurs.
Fait qu'oubliez pas de la brancher à Saint-Agathe, là. Fait que voilà. Plus.
Pauvre Sylvain va dormir au motel, au motel 117 quelque part. Merci Philippe encore.
Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut Patrick.
Tu veux nous parler du projet de loi élargi pour mourir dans la dignité. Là, ça a été déposé. C'est un cheminement législatif à Québec.
Oui, c'est ça. Donc, le gouvernement et les oppositions se sont entendus pour essayer de déposer ça avant la session parlementaire, donc que ça soit réglé. Ça suit les recommandations du comité transpartisan sur l'aide à mourir qui voulait élargir ça pour inclure les gens qui souffriraient d'une maladie qui est dégénérative et donc qui les priverait en fin de vie de la possibilité de choisir parce qu'au moment, quand cette maladie-là, quand tu arrives vers la fin, là, tu n'as plus la capacité de prendre la décision par toi-même. Or, les règles actuelles exigent que au moment de prendre la décision, tu es en plein contrôle de tes moyens et que tu réitères à plusieurs reprises ta demande. Alors là, ça sauterait par-dessus ces étapes-là et ça dirait, ben moi, je suis atteint de cette maladie-là. C'est prouvé médicalement, je suis atteint ou atteinte et je demande à ce que on mette fin à ma vie au moment où j'aurai atteint un état de...
Comme des directives anticipées, si on veut, pendant qu'on a encore toute sa tête.
C'est ça. Et donc, ça, c'est une révision. C'est pas la première révision. Hein. On se rappelle qu'il y avait eu une première révision parce qu'au début, l'aide à mourir, c'était il fallait que la maladie soit jugée incurable et que tu sois en fin de vie. Donc, ta mort était prévisible à courte échéance. Il y a des règles, il y a des pays qui avaient même statué, comme à l'Oregon, par exemple, il fallait que ça soit à l'intérieur de 6 mois. Mm-hmm. D'autres fois, c'était même quelques semaines. D'ailleurs, il y a plein de gens qui demandent l'aide à mourir, mais qui meurent avant parce qu'ils attendent tellement que la maladie les emporte avant que le processus de
l'aide à mourir. Je sais que dans certaines juridictions, il y a des gens qui meurent trop tôt parce qu'ils veulent le faire pendant qu'ils peuvent encore le demander.
Oui, c'est ça, c'est ça. Après ça, il y a donc cette deuxième révision qui dit, ben là, moi, je veux demander à mourir si jamais j'ai un diagnostic de maladie incurable. Il y a une troisième, une quatrième révision qui sont aussi envisagées, mais qui sont pas dans l'actuel projet de loi. La révision pour les maladies mentales, donc t'as une maladie mentale qui est incurable puis qui procure des douleurs graves. Tu sais, il y a des maladies comme les dépressions chroniques. qui sont extrêmement douloureuses puis qui amènent de la détresse de la même manière qu'une maladie physique. Et donc, ça, c'est à l'étude aussi. Et là, il y avait une idée qui avait été apportée, qu'on a essayé de mettre dans la loi d'ailleurs, puis qu'on l'a retiré, le ministre Dubé l'a retiré, l'a retiré en dedans de 24 heures, c'est les handicaps neuromoteurs graves et incurables qui procurent aussi une forme de... C'est pas du même ordre que les autres, là. C'est pas dégénératif, mais c'est... un handicap neuromoteur auquel tu veux mettre fin, tu considères que ta qualité de vie. Mais ça, c'est un autre ordre de grandeur et ça a été retiré à la dernière minute.
OK, puis toi, quel regard tu portes sur ce projet de loi-là?
Ben, moi, je suis enchanté par ce projet de loi-là. Je trouve que c'est la chose à faire. Je suis content de voir que le Québec est à l'avant-scène du monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays qui réfléchissent à ça. Il y en a une douzaine environ. Il y a beaucoup, beaucoup de pays où c'est entendu et c'est pratiqué, mais il n'y a pas de texte de loi. Je considère que ça va faire sans doute beaucoup augmenter le nombre de personnes qui demandent de l'aide à mourir. Tu sais que l'aide à mourir, ça augmente sans arrêt au Canada, environ de 30 % par année, là, entre 2017 et 2018.
Oui, ça rentre dans les mœurs. Puis aussi, il faut le dire, Luc, tu sais, la population vieillit. Oui. Tu as plus de gens qui sont susceptibles de demander ça, de ne pas vouloir souffrir jusqu'au dernier supplice. Là.
C'est ça. Donc, c'est une croissance à peu près 30 à 40 % par année. Là, on est en 2020, la dernière année où on a des chiffres. Là, on est à 7500 pour tout le Canada. Moi, je pense qu'avec cette nouvelle option-là, ça va beaucoup, beaucoup augmenter. D'ailleurs, moi, je sais pas, mais autour de moi, je connais personne, c'est dans les discussions qu'on a, qui voudrait se priver de cette possibilité-là. Mm-hmm. Tout le monde dit, moi, écoute, si je suis rendu là, et par pitié, mettez fin à mes jours, là, je ne veux pas être dans un état de perte de dignité, de fardeau pour les autres. Et donc, je suis enchanté, puis je pense que ça va vraiment progresser. Ceci étant dit, on reste quand même, pour toutes les révisions dont je t'ai parlé, les élargissements dont je t'ai parlé, on reste avec cette idée-là que tu dois avoir des souffrances, même pour les maladies mentales, là, des souffrances qui sont intolérables et irréversibles et que tous les traitements ont été tentés, même pour les maladies mentales. Mm-hmm. Donc, c'est un médecin qui dit, OK, toi vraiment, là, tu souffres, c'est incroyable. Puis tout a été tenté, parfait, je mets mon tampon. Ils sont peu nombreux d'ailleurs, les médecins, à le faire. Et ça me chicote. Je comprends pas qu'il y ait un consensus médical là-dessus de dire on va vraiment aller au bout du bout des possibilités. Je considère que c'est de l'acharnement. Je pense que l'aide à mourir, ça devrait être une décision individuelle. Je t'en ai déjà parlé, puis je sais que toi, tu étais dubitatif par rapport à cette déclaration que j'avais faite. Je préférais de loin l'aide au suicide, c'est-à-dire je considère que ma situation est une situation inhumaine. Je considère que je ne vis plus dans la dignité, même si j'ai pas de douleur, je ne vis plus dans la dignité et je veux mettre fin à mes jours. C'est ma décision, m'appartient, elle n'appartient pas à un médecin. Et d'ailleurs, tu sais qu'en Suisse, c'est le seul pays, il y a aussi les Pays-Bas, la Suisse pratique cette aide-là, l'aide au suicide, depuis des années. Et bien, guess what? En ce moment, il y a 6 jours, la Fédération des médecins suisses a demandé de revenir en arrière, alors que cette situation-là existe depuis 50 ans en Suisse, de revenir en arrière et dire non, on devrait s'aligner sur les pays qui disent qu'il faut qu'il y ait une douleur physique ou psychologique intolérable liée à une condition médicale irrémédiable. Même eux, ils veulent reculer. Donc, je ne comprends pas pourquoi on met notre sort dans les mains des médecins.
Ben ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'on a fait le débat, disons, dans la société, dans le politique, on n'a pas entendu les tribunaux, tu sais, on n'a pas été à la remarque. Au Canada anglais, c'est la Cour suprême qui l'a imposé. Mais là, c'est ce que beaucoup de voix disent, là, qui sont en faveur de l'aide médicale. Attention, là, on s'en va vers d'autres frontières dont on n'a pas discuté, qui ont pas fait l'objet de consensus puis de grands débats. Et ça ma crainte, moi, Luc, là, pour avoir beaucoup écrit là-dessus, d'avoir réfléchi à ça, là, c'est que ça en vienne à, disons, un peu teinter tout le principe d'aide médicale à mourir.
Mm-hmm. Effectivement, ça serait vraiment un changement, un effet de seuil terrible. Là. Effectivement, ça changerait tout, mais je pense qu'il faut avoir la discussion, il faut l'ouvrir.
Oui, ben, en tout cas, on l'a.
Parfait.
Hey, salut, à demain. Bye.
Deal, my dear. They're all work, you're all the love. Je t'imagine danser en studio avec MC à l'entour d'un poteau.
C'est exactement ça qu'on faisait.
Oui.
Non, pas tant que ça, je te dirais, mais écoute, j'apprécie la musique de Shakira, je te dirais.
C'est vos bonnes années de club, ça, messieurs.
Eh, mon Dieu. Oui, mais pourquoi Shakira se retrouve-t-elle dans une chronique financière?
Parce qu'elle a dit... C'est pas vrai qu'on est toujours together, moi et l'Espagne. On l'était juste quand ça me tentait d'être là. Parce qu'elle dit, moi, je suis plus aux Bahamas fiscalement, vous comprenez? Okay. Alors, l'Espagne disait, une minute, là, madame, t'as beau être international, de chanter dans tu wolf dans ton closet, peu importe qu'est-ce que tu fais, peu importe qu'est-ce que tu dis, t'étais comme espagnol, tu vivais avec quelqu'un dans ce temps-là. Non, j'étais pas espagnol. Je suis une vedette internationale qui passait moins de la moitié de mon temps en Espagne, donc je n'étais pas un citoyen fiscal de l'Espagne. Évidemment, les avocats de madame disent non. Madame était non résidente. C'était, elle payait tous les impôts qui étaient dus dans les États où elle en devait. Bon, évidemment, ça c'est une question, Patrick, d'interprétation. Et là, ça se peut qu'elle ait payé quand même, parce qu'on l'accuse d'avoir évité de payer 14,5 millions d'euros. Ce qui est quand même pas pire.
Je refuse de croire que quelqu'un qui fait des millions comme ça ait pu avoir recours à des stratégies agressives comme ça en matière de fiscalité.
Patrick,
je refuse de croire
ça. Je fais attention à ce que je dis parce qu'elle n'a peut-être pas eu des stratégies agressives.
Okay.
Elle a peut-être, par hasard, résidé dans un État où la fiscalité est facilitante, disons. Comme aux Bahamas, disons, comme ça. Puis c'est drôle, hein? Aller aux Bahamas quand t'es un musicien, ça a l'air le fun. Mais on jase entre toi et moi. Au-delà de ça, il y a ça. Puis là, c'est un débat. Puis on peut dire, ben oui, j'étais là, pas là. La fiscalité, c'est le même. Mais une vedette internationale qui est toujours dans ses valises, mettons qu'elle a la facilité de commencer à jouer ce jeu-là, puis on lui donne le bénéfice du doute. Ah, c'est vrai, toujours dans un avion, dans le fond, tu sais. Eh, son pays d'adoption, c'est drôle, hein? C'est jamais un pays où il y a 50 % d'impôts. Tu sais, il n'y a personne qui se dit « Oh my God, I'm gonna go to Quebec », tu sais, une belle ville nordique où je vais avoir l'inspiration.
Ou en France.
Non.
Puis, un des groupes préférés, puis arrive de...
YouTube?
De Patrick, YouTube.
Ben oui, YouTube. C'est, Patrick, tu sais que YouTube...
Bono va partout sur la Terre, donc il arrive d'Ukraine pour nous dire comment bien penser, puis c'est ci, puis c'est ça, mais pas capable de payer les impôts dans son pays.
Écoute, à l'époque, attends, MC, il faut faire attention.
Oui, mais MC est un peu biaisé, il aime pas Bono. Ben, il aime pas la musique de YouTube, fait qu'il retrouve toutes sortes de péchés.
Écoute, YouTube, je vais te dire une affaire, Patrick. Il était patriotique. C'était les Irlandais, on s'entend, hein?
Ben oui.
Et à l'époque, l'Irlande, pour les droits d'auteur, c'était magique, il n'y avait pas d'impôts pratiquement.
Donc, il y a même des résidents fiscaux de l'Irlande.
Ben, il était là de toute façon. Donc, eux autres, il y avait l'Irlande tatouée sur le cœur, tu comprends? Sunday, bloody Sunday, on paye nos impôts ici, c'est-à-dire rien. Mais, en 2006-2007, à peu près, le gouvernement a changé, puis on dit, savez-vous quoi? L'Irlande, là, c'est plus si un paradis fiscal pour les auteurs, on veut arrêter ça. Ah ben, c'est drôle. Tout d'un coup, l'amour de YouTube l'Irlande a changé.
Ils sont trouvés un chalet.
Comme Eric Clapton, comme Mick Jagger, comme toutes les autres qui sont passés là en se disant, ah, tu sais, Luc Plamondon, à cette époque-là, dit, vous, je me sens mieux à Montreux, finalement. Donc, tu comprends, c'est moi, ça vient me chercher parce qu'ils ont le droit, là. Tu sais, t'as le droit. C'est comme quand tu joues au tennis. Tu sais, tu peux être supporté par Tennis Canada. Tu peux développer ton potentiel ici. Tu peux avoir les cols gratis. Tu peux vivre ici, là. Puis là, un moment donné, tu dis, non, moi, je vais aller jouer sur la terre battue, sur le gazon, un peu partout dans le monde, puis je fais les remis à Monaco. T'sais, je me sens plus fiscalement de Monaco.
Ouais, mais
j'aime bien Jacques Villeneuve. Ça me tente d'être son voisin.
C'est fortuit, ce que tu dis, hein. C'est pas basé sur aucun fait réel.
Aucun fait réel. Il y a personne. Je fais pas un geste Rosinski de moi-même. Je parle de personne. Je parle pas de lui. En fait, c'est une joke. Je veux pas nommer le vrai nom parce que tu comprends que je veux pas avoir de mise en demeure.
Mais Pierre-Yves, c'est comme dit Pat, c'est légal. Maintenant, est-ce que c'est éthique?
Ben, moi, j'ai un point de vue. Puis là, vous voyez, dans la philosophie, Patrick, parce que je sais que t'aimes ça. Quand t'écoutais du Shakira au Electric Avenue à l'époque, tu disais « Ouais, mais il y a trois genres de résidents fiscaux. T'as le droit, ça, c'est le Pierre-Yves, celui qui aime payer sa part, puis que, oui, il chiale pas quand quelqu'un fait un gain sur des cartes de hockey dans une vente de garage, tu sais. T'as l'optimisateur, ça, c'est le joueur de tennis qui s'en va dans les places où la fiscalité est optimale, mais c'est encore, entre guillemets, légal. Puis t'as aussi le fraudeur, qui est, dans le fond, le gars qui déclare pas ses travaux. Okay? Ça, c'est trois sortes de citoyens fiscaux. Mais ces trois-là, ils devraient se poser une question. La société... Puis là, je suis un idéaliste, je sors, là. Je suis mon Rémi sans famille. Là. Puis je dis, si un pays a une fiscalité cohérente, elle est cohérente sur une vie. Je te donne un exemple, au Québec, on dit, on te donne une chance. On paye ton école, on fait toutes les affaires pour toi. On va te rendre médecin, ça va t'avoir coûté une fraction du prix de la réalité. Mais on aimerait ça que tu restes ici, après ça, pour payer des impôts, pour compenser le fait qu'on t'a formé depuis que t'es né dans notre social-démocratie. Mais si tu prends tout ça, puis au moment où tu viens passer à go, tu sauves l'impôt, c'est un peu comme quelqu'un qui, oh, on l'a supporté dans ses productions subventionnées tout le long, tu fais une comédie musicale, mais dès que tu viens pour cash-in, taf, tu t'en vas ailleurs. Tu sais, ça, je trouve, puis là, je juge pas ces personnes-là, je parle de la responsabilité citoyenne de payer l'impôt dans la patrie qui t'a donné une chance.
Hey, t'es vraiment un idéaliste.
Ben, je suis un idéaliste, mais comme MC, dans le fond, tu sais, il y a un attachement à sa région de Québec, tu comprends? Ouais. Parce qu'il vient de là. Il investit dans ce coin-là, tu comprends? Il y a un attachement. Toi, Patrick, t'es un gars de la vase, c'est pour ça que t'investis sur le plateau, t'es pas trop loin, t'es à un pont de chez vous. Tu vas pas te garocher dans au Delaware, t'enregistrer dans un Inc là-bas. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Alors ça, pour vrai, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse globalement, puis peut-être l'inculquer dans notre... Je sais, Patrick, là, tu vas dire que je suis un idéaliste, puis que je vais bien être tout seul de même. Mais quand je vois Shakira qui a fait des dizaines de millions de dollars, ça te dit, ah, moi, c'est drôle, hein, je suis pas résident de là, mais mon chum est là, je vis avec, mais je suis tellement souvent pas là que j'ai gardé mon adresse ailleurs. Ça vient me chercher.
Et on nous dit que c'est une Colombienne.
Oui, c'est une Colombienne d'origine.
Mais elle résidait en Espagne. D'où le litige avec le fisc espagnol.
Si je te parle de Las Vegas puis Céline Dion, puis je te dis que Las Vegas, il parle de taxes, vas-tu me dire, ah oh non, elle est québécoise. Mais non, elle était colombienne, elle est allée vivre en Espagne, mais elle était résidente des Bahamas.
Tu peux commencer ton week-end de 4 jours.
Ah, encore une fois. Hein? La pointe, enfin, est en même peigne. Bien genre.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.